franceinter.fr.
La truculente aventure japonaise de la biche et du singe, nouvelle fable, un cas unique de pratique sexuelle interespèce aujourd'hui à la une de la science.
Ma biche, où êtes-vous, ma biche?
Elle est dans les bois, chef.
Tout suffit, peut-être moi, non? Allez, on y va, chef. Allons, ma biche, c'est un affreux malentendu.
Voilà, mais c'est d'une autre biche, évidemment, dont nous allons parler avec cette vidéo qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux en moins de 3 jours. Tout le monde l'a vu quasiment autour de la table, Catherine Dolto.
Non, moi, je l'ai pas vu.
Myriam l'a pas vu, on va vous les montrer. Ce petit macaque japonais qui fricote et qui se soulage sur une biche Sika sur l'île japonaise de Yakushima. Derrière la caméra, il y avait le photographe animalier Alexandre Bonnefoy qui a contacté immédiatement ses collègues chercheurs de l'Institut Bercurien à Strasbourg. Et la suite, c'est vous qui allez nous la raconter, Cédric Sueur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, maître de conférence à l'université de Strasbourg. Comment est-ce que d'abord vous avez réagi lorsque le photographe Alexandre Bonnefoy vous a raconté et montré ce qu'il a vu?
Alors, il nous a d'abord raconté cet événement et au début, on l'a pas du tout cru. C'est ensuite, quand on a vu les images, qu'on a compris que c'était pas du rodéo, donc le comportement culturel des macaques japonais sur les daims, mais que c'était bien une relation sexuelle d'un mâle sur une daine.
Les macaques japonais font du rodéo sur des daims?
Oui. Alors, il y a une relation particulière de coopération des daims et des macaques sur l'île de Yakushima, parce que les daims, en fait, profitent des fruits et des feuilles qui sont laissées tomber par les macaques japonais des arbres au sol. Mm-hmm. Et les macaques vont toiletter les daims. Et en fait, il y a un comportement qui est né, qui ce sont des jeunes qui se sont mis à monter sur les daims pour jouer, faire du rodéo, mais également pour se déplacer sur quelques mètres.
Alors, plus sérieusement, les photos et les vidéos d'Alexandre Bonnefoy vous ont permis de publier un article cette semaine dans la revue Primates. Comment est-ce que vous expliquez ce comportement très particulier de ce petit singe alors?
Alors, c'est un singe mâle quand même, adulte. Mm-hmm. Donc en fait, c'est un singe périphérique. Donc il n'a pas accès aux femelles et ça s'est produit durant la saison de reproduction en novembre, lorsque Alexandre était là-bas pour prendre les photographies pour notre projet Saru Singe du Japon. Et en fait, je pense que comme ce singe mâle n'avait pas accès aux femelles macaques et qu'il était un peu frustré, il s'est soulagé sur une daine.
Donc vous voulez dire que c'est un peu le loser de la famille macaque, quoi, c'est ça, dans la tribu des singes?
Les macaques japonais, en fait, ne vont pas tolérer tous les mâles dans le groupe. Et vous avez beaucoup de mâles périphériques qui n'ont pas forcément accès à des femelles. Et du coup, ces mâles font ce qu'ils peuvent, je pense.
Je voudrais pas paraître trop curieux, mais est-ce qu'un singe et une biche, c'est anatomiquement compatible?
Non, pas du tout. J'ai souvent eu cette question de qu'est-ce que ça allait donner. Ça peut rien donner du tout, en fait. Autant un lion et un tigre peuvent donner un hybride, un cheval et un âne, mais là, une biche et un macaque ne peuvent rien donner du tout.
Oui. Alors, puisqu'on est vraiment dans les détails de l'opération, et puisqu'on est quand même avec des spécialistes de l'amour ici, il y a eu pénétration ou pas entre le macaque et la biche? On aimerait bien savoir, quand même.
Non, non plus.
Ah là là, déception.
Alors, mais quelle est la nature de l'acte pour le singe dans ce cas-là?
C'est vraiment un rapport dans le sens où, en fait, lui, ça lui permet de soulager ses pulsions sexuelles. Et en plus, ce qu'on veut voir, c'est qu'après, il y a vraiment aussi éjaculation et que la femelle daine lèche la semence, probablement pour avoir un complément protéinique derrière.
Ah oui, d'accord.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce singe, c'est un des singes les plus étudiés de la planète. Donc, vous êtes sûr que c'est la première fois que cette chose est observée dans la nature?
Alors nous, on l'a rapporté pour la première fois d'un point de vue scientifique. Après, on en avait discuté avec des collègues japonais et eux n'avaient jamais observé non plus ce comportement.
Comment vous expliquez ça? C'est l'émergence d'un comportement ou alors c'est simplement un singe très marginal?
Non, c'est l'émergence d'un comportement. En fait, chez les macaques japonais, on a beaucoup de comportements dits culturels. Donc ça aussi, on le rapporte dans notre livre. Et en fait, si vous avez un comportement culturel qui est un comportement qui est appris de la part d'un groupe d'individus, vous avez forcément à un moment donné une innovation. Et là, on est en face d'une innovation, c'est-à-dire d'un individu qui a émis un nouveau comportement et qui peut probablement le transmettre ensuite à d'autres mâles, mais ça, il faudra voir d'ici quelques années.
Alors, Cédric Sueur, est-ce qu'on pourrait imaginer la situation inverse, c'est-à-dire un cerf avec une dame macaque?
Je pense que anatomiquement, ça sera encore moins possible.
Oui.
Mais vous voulez dire dans quel sens? La femelle qui monte sur...
Ah ben ça, je sais, la position, je vais pas rentrer dans les détails, on peut tout imaginer. Une relation sexuelle, c'est déjà pas mal, après c'est ouvert, entre un cerf et une femelle macaque, voilà. Mais ça, on ne l'a jamais observé non plus, apparemment. Alors
ça, j'ai un collègue, Jean-Baptiste Leca, qui nous a rapporté qu'il y avait, là où il étudiait des macaques japonais, des femelles macaques qui, au moment de la saison de reproduction, c'est-à-dire également en novembre, montaient sur des daims, mâles, se frotter également. Ce qu'il y a également chez les macaques japonais, c'est que les femelles n'ayant pas accès aux mâles au moment de la saison de reproduction ont aussi des comportements homosexuels, par exemple.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la première observation de ce genre de pratique? Parce que la zoophilie consentie existe aussi chez l'homme, on connaît.
Oui, chez l'homme, on connaît. Mais du coup, nous, on a raconté que c'était la première observation chez un macaque japonais.
D'accord.
Et chez un primate non humain. Après, ça a été observé, par exemple, chez une otarie qui avait qui harcelait un manchot. Donc ça avait été rapporté en 2004, je crois. Et là, c'était vraiment le premier, la première étude sur ce comportement sexuel interespèce.
En termes de biologie évolutive, quel est l'intérêt d'étudier ce genre de comportement à la marge?
Alors nous, on n'étudie pas la reproduction du tout. En tout cas, moi et Marie Pellet, on n'étudie pas du tout la reproduction là où on travaille, au DEPE. Par contre, il y a des chercheurs qui peuvent travailler sur la reproduction. Et ça va on va essayer de comprendre, souvent comme n'importe quel comportement, si on a ces comportements-là chez les animaux, ça nous permet de comprendre pourquoi on a ces comportements-là chez l'homme, par exemple. Que ça soit pour des comportements sexuels, pour des comportements économiques, pour des comportements sociaux. Le fait d'étudier les animaux nous permet de comprendre l'évolution de ces comportements jusqu'à l'homme.
Vous êtes surpris, Cédric Seur, de l'effet, de l'ampleur là autour de ces photos qui ont fait vraiment le tour du monde? Je sais que vous avez été interrogé par la presse du monde entier. Ça vous a surpris ou pas?
Quand on allait publier l'article, je savais qu'on allait pouvoir avoir une petite news en Science ou peut-être dans Le Monde. Par contre, je pensais pas qu'on allait avoir autant de rebonds sur d'autres journaux et ni qu'on allait avoir autant de vues sur la vidéo. Là, on arrive à peu près à 2 millions de fois. 2 millions de vues sur la vidéo. Et là, non, on n'en était pas du tout conscient.
Et vous allez avoir Emma Lacloune qui va visionner ces images parce qu'elle ne les a pas encore vues. Merci beaucoup, Cédric Seur, d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire. On peut citer le livre d'Alexandre Bonnefoy, coécrit avec Marie Pellet et vous-même, qui s'appelle Saru, singe du Japon. Et puis, il y a une exposition également à Strasbourg en ce moment, hein, c'est ça?
Oui, donc il y a une exposition à Strasbourg en ce moment avec une cinquantaine de photographies à la médiathèque André Malraux. Et demain, Alexandre Bonnefoy fera une conférence justement à 15h à la médiathèque à propos de son carnet de voyage au Japon à propos de ce sujet sur les singes.
Eh bien, rendez-vous est pris pour les Alsaciens. Merci beaucoup à vous, Axel. Bon week-end. Merci.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, jouer beaucoup aux jeux vidéo n'est pas forcément dangereux tant qu'on est plusieurs. C'est le constat d'une étude de l'école de médecine Johns Hopkins menée sur près de 10 000 jeunes néerlandais jouant plus de 4 heures par jour aux jeux vidéo. Selon leurs observations, la pratique intensive du jeu ne pose pas nécessairement de risque d'addiction ou de dépression tant qu'elle n'est pas solitaire. Le jeu vidéo est souvent l'occasion de fortes interactions via le jeu ou les réseaux sociaux. Les chercheurs ajoutent que pour les joueurs pathologiques, le jeu n'est pas forcément la cause mais parfois le révélateur d'un malaise plus profond chez les jeunes. Une vidéo étonnante, pour la première fois, la vitesse d'attaque d'un serpent à sonnette a été mesurée dans son habitat naturel. Des biologistes californiens ont observé dans la nature des serpents à sonnette chassés de petits rongeurs, des rats kangourous. Ils ont pu mesurer que la vitesse d'attaque du serpent, environ 3,5 mètres par seconde, était supérieure à celle mesurée jusque-là en laboratoire. Autre différence, l'esquive du rongeur était également plus rapide en pleine nature grâce à une réserve d'énergie conservée dans ses pattes arrière. Et vous pouvez voir justement cette esquive en vidéo sur notre compte Facebook. Et puis notez sur vos tablettes la semaine de culture scientifique à Bordeaux qui va commencer mardi prochain jusqu'au 21 janvier. C'est l'association Dealer de Science qui organise une série d'événements sur le thème du temps. Dessiner, débat, des conférences et même un jeu de piste auront lieu à l'espace Saint-Rémy de Bordeaux. Vous aurez tout le programme sur la page Facebook de La Tête au Carré.